aujourd'hui, Bezrat Hashem, fermez la porte s'il vous plaît, on va essayer de comprendre la base même de tout ce qui s'est passé dans ces périodes de 3 semaines, du 17 Tammuz au 9 Av. Bien entendu, il ne faut pas traiter ce sujet uniquement en regardant ce qui s'est passé. On a toujours une tendance à regarder seulement le résultat et on oublie la cause des choses. Le résultat, c'est que le jour de 17 Tammuz jusqu'au 9 Av, il y a eu début de destruction et destruction des 2 temples de Jérusalem. Si on regarde les choses avec un œil qui ne regarde que le résultat, alors on se dit, bon, il y a eu destruction, jour de deuil. Mais là, je vous propose d'aller voir en fait la cause. La cause a commencé bien avant, au moment où HaKadosh Baruch Hu avait prévu de donner la Torah. Au moment où HaKadosh Baruch Hu a prévu de donner les tables, c'est-à-dire pendant le don de la Torah au mont Sinaï, lorsqu'HaKadosh Baruch Hu a parlé, là-bas il n'y a pas eu les tables de la loi. Donc rien ne s'est brisé en fait. On a parlé au peuple d'Israël, le peuple d'Israël a entendu les paroles du divin et les gens sont retournés chez eux le soir en se disant, on attend, on ne sait pas trop ce qu'il va y avoir, non, c'est Venishma pour l'instant. Pardon ? Il y a eu un impact, bien entendu qu'il y a un impact, mais c'est encore une Torah qui n'est pas en contact. La preuve, c'est qu'elle n'est pas encore dans une réalité physique matérielle. La deuxième étape, là, il y a un impact beaucoup plus fort parce que la parole de Dieu est gravée dans la pierre. Ce qui veut dire que la parole d'Akadosh Baruch Hu est descendue dans la nature. C'est ça que ça veut dire gravée dans la pierre. Gravée dans la pierre, ça veut dire que les paroles d'Hachem sont gravées dans le monde matériel. Et là, l'impact est beaucoup plus grand. Malheureusement, à ce stade-là, c'est ce qui se passe, c'est la brisure de ces tables. Ça veut dire qu'il y a une incapacité de recevoir ces tables, pour une raison qu'on va essayer de comprendre. Et à partir de ce moment-là, il y a une brisure, en fait, qui va durer le long de l'histoire. Ça veut dire que la brisure des 2 temples de Jérusalem commence par la brisure des tables. C'est de là où commence la graine de ce problème. Vayara'am ki boshesh Moshe, la redet minahar. Voici le texte de la Torah qui nous raconte que Moshe a tardé de descendre de la montagne. Vayikael ha'am al Aharon, le peuple s'est rassemblé sur Aharon, je traduis volontairement, textuellement, sur Aharon, ça veut dire il avait une pression sur lui. Et le peuple lui dit, lève-toi, fais-nous des dieux, okay, au pluriel, asher yelchou, qui marcheront, au pluriel, lefanenu, devant nous. Kizeh Moshe ha'ish asher he'elanu me'eretz Mitzrayim lo yada'anu me'hayalo. Car cet homme-là, Moshe, qui nous a fait monter de l'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Alors vous comprenez qu'ici il y a un problème qui, le texte de la Torah est tellement riche qu'on ne peut pas juste traduire comme je viens de le faire. On est obligé d'approfondir un tout petit peu le texte pour essayer de comprendre. On comprend que le peuple a du mal avec l'unité divine. C'est pour ça qu'il demande des dieux, au pluriel. Qu'est-ce que ça veut dire des dieux au pluriel? Ce que je lis, il y a marqué « Aselanu, fais-nous, Elohim » au pluriel, « Asher yelchou » qui marcheront au pluriel, « Lefanenu ». Pardon? Alors, parce que l'unité divine est difficile à concevoir dans notre monde. Nous sommes dans un monde de détails, nous sommes dans un monde de pluralité, et on a du mal à comprendre l'unité. C'est-à-dire tout ce qui est unité d'Akadosh Baruch Hu, on n'arrive pas à comprendre ce que ça veut dire. Nous, nous sommes dans un monde où les choses sont séparées, on ne voit pas le trait d'union entre les éléments de ce monde. Chaque élément est à part entière. On ne comprend pas le lien qui se trouve. Même entre nous, on n'arrive pas à comprendre quels sont les secrets qui nous relient les uns aux autres. On a l'impression qu'on est des personnes différentes. Akadosh Baruch Hu, dans son monde à lui, ça ne se passe pas comme ça. Chez Akadosh Baruch Hu, il y a une unité parfaite entre tout et tout. Et plus un homme est sage, plus il voit cette unité entre tout et tout. Plus un homme est dans la faute, plus un homme est bas au niveau de son degré spirituel, plus il voit les séparations. Il ne peut pas voir l'union. Et donc, chez un homme qui a perdu son da'at, sa connexion, eh bien, le monde est une multitude de détails. Mais chez un homme qui a reçu le da'at, eh bien, le monde est une unité. Un exemple de notre corps, un enfant peut-être aura du mal à comprendre que le corps humain est un corps. Il va croire que c'est un ensemble de membres. Alors quand tu regardes et que tu es petit, un homme, tu peux te dire peut-être c'est une tête, c'est des mains, c'est des jambes. Tu n'arrives pas à comprendre que c'est une unité organique. Mais quand tu grandis, tu commences à comprendre que tu ne peux pas t'adresser à un homme en disant deux oreilles, deux yeux, deux narines et une bouche. Tu commences à comprendre qu'il s'agit ici d'un être unitaire qui est composé de plusieurs degrés, mais ce n'est pas les degrés qui le font. Lui existe avant ses membres. Mais c'est la même chose dans la vie. La vie, en fait, est un petit corps. Le monde est un petit corps, un grand corps. Et les éléments qui se trouvent dans cet univers sont reliés dans une forme organique pleine de vie. Et nous, comme nous sommes petits, eh bien, on ne sait pas faire le lien entre les choses. On voit des étoiles, on voit un soleil, on voit une terre, on voit des arbres, on voit des hommes, on voit des voitures, on voit des chats, et on ne sait pas trop faire le lien. Quel est le degré qui unit tout ça? Ça, ce degré-là, qui fait l'union, on l'appelle le da'at. Le da'at qui se traduit par la connexion. C'est ça le véritable sens de la connaissance. Si on devait lui donner une forme humaine, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu représente en fait, pas un homme, mais une qualité de colle adhésive qui colle tous les éléments de ce monde. Ça veut dire que quand Moshe est à côté de moi, quand Moshe est en moi, je vois en fait toutes les relations entre les causes et les effets dans ma vie. Mais quand Moshe n'est plus à côté de moi, n'est plus en moi, eh bien je vois le monde comme un ensemble de détails, où je ne comprends pas du tout le lien entre les degrés. Maintenant vous comprenez ce qui se passe ici. Pourquoi les enfants d'Israël sont en train de préparer un veau d'or, de fauter? Mais tout simplement parce que Moshe a disparu. Ils ont perdu leur Moshe. Ils ont perdu leur col. Ils ont perdu l'élément qui unifie, qui montre l'unité. Et c'est ce qu'ils disent. Qu'ils aient Moshe Haïch. Cet homme-là, Moshe, qui nous a fait monter de l'Égypte, Lo yada'anu me'ayalo. Lo yada'anu, traduction, on a perdu le da'at. Lo yadan, on n'a plus de connexion, on n'a plus de lien, on n'arrive plus à comprendre. Alors si on a perdu l'unité, quel est le seul Dieu qui peut remplacer cette unité? Une multitude de dieux. Alors ils vont chez Aaron en lui disant au pluriel, fais-nous des dieux, car on a perdu l'unité, on n'arrive plus à comprendre l'unité, qui marcheront ces dieux devant nous. Autrement dit, on est obligé de descendre au niveau de la vie et de nous adresser aux choses séparément. Il y a le dieu de la mer, il y a le dieu du soleil, il y a le dieu de la guerre, il y a le dieu des animaux, et ainsi de suite. Autrement dit, avec des mots plus simples, comme on a perdu la connexion avec l'unité divine de ce monde et qu'on a besoin d'un dieu, mais on n'arrive plus à comprendre le dieu unitaire, eh bien, au moins qu'on ait des dieux qui sont en réalité responsables sur tous les degrés de la nature. Vous comprenez que cette histoire n'appartient pas seulement à la génération du désert. Cette histoire peut nous appartenir tous les jours. Et c'est là où la Torah, en réalité, se dévoile dans l'actualité. Ça veut dire que si Chas Veshalom, l'un d'entre vous, perd son degré d'unité, perd ce qu'on a appelé son Moshe, Rabbeinu, eh bien lui aussi, il va tomber automatiquement dans un degré de multitude de Dieu. C'est comme s'il tombait dans la Avodah Zara. Ça veut dire que tu ne sais plus faire le lien dans ta vie. Tu laisses les jours passer. Tu ne vois pas le lien entre ce qui se passe, ce que tu fais, ce que tu as investi et les résultats de ce que tu fais. Donc tu te dis, les jours passent, le temps passe, on verra, je ne sais pas trop. Je ne vois pas des causes et des effets. Je ne sais pas les tenants et les aboutissants de chaque chose dans ma vie. Et l'homme, en réalité, vit dans un monde éparpillé complètement. Il n'y a aucun lien. Le matin, il est ici. L'après-midi, il est là-bas. Il n'y a pas un fil qui réunit toutes les perles pour faire un collier. Imaginez-vous qu'un collier n'a pas de fil qui passe entre les perles. Qu'est-ce que ça vous donne? Des pierres éparpillées. Vous ne savez pas qu'il y a un collier ici. Il n'y a pas de collier. Mais c'est la même chose. Quelqu'un qui perd son Moshe Rabbeinu, perd son fil conducteur entre toutes les perles. Et en réalité, il se trouve avec une vie de multitude de petites pierres, qui est précieuse peut-être, mais éparpillée, sans aucun sens. Tu ne sais pas qui est avant qui est à côté de qui, quelle couleur doit être à côté de telle couleur, et tu n'as aucune beauté, tu n'as pas de collier, tu ne sais pas du tout de quoi ta vie est faite, et ta vie devient en fait des jours qui passent. Ça, c'est la Avodah Zara au sens le plus profond. Ne croyez pas que les hommes là-bas étaient des imbéciles, au point de se construire un veau en or pour essayer de danser autour. Okay? Ça, c'est pour les enfants. On n'est pas à ce degré-là. Le véritable sens de cette Avodah Zara, c'est de perdre la direction de la vie. Maintenant, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils ont perdu cette direction de la vie? Mais tout simplement, ils ont perdu en fait le monde de Moshe. Ils ont perdu l'unité. Ils ne savent plus vers quoi ils vont. Ils ont oublié le sens même de leur sortie d'Égypte. Et ils se sont habitués à un désert, on marche, on ne sait pas trop ce qui va se passer, on avance. La vie n'a plus aucun sens, dans le véritable sens du mot. Elle n'a plus de direction, elle n'a plus de sens. Il n'y a plus de flèche, il n'y a plus de panneau indicateur, tu ne sais pas où tu vas. Tu n'as pas d'ordre dans la vie, tu n'as aucun degré, tu ne comprends pas. C'est ça ? Quel ? C'est normal. Si on a un but final et que pendant le chemin il y a des changements, ça ne change rien. Ça veut dire que ces changements sont naturels parce qu'il faut que tu arrives au but, mais tu n'as pas oublié ton but. Le problème, c'est quand ces petits problèmes de la route te font oublier le but vers lequel tu vas. Ça peut te démoraliser. Les problèmes du chemin peuvent te dire non, alors finalement je laisse tomber. Tu veux te marier, tu as un but. Eh bien, c'est difficile de trouver un chidour, c'est difficile de trouver une salle, de rassembler de l'argent pour construire votre foyer. Alors qu'est-ce que tu te dis? Ah ben, je ne vais pas me marier. Oh, tous ces problèmes. Tu as oublié le but, en fait. Parce que les problèmes de l'instant, de maintenant, du chemin, t'ont tellement démoralisé que tu as oublié le but final. Et c'est malheureusement ce qui se passe. Je vous donne des exemples un petit peu grossiers. Mais c'est ce qui se passe dans notre vie dans plein de domaines. Et il faut faire très attention à ça, que les difficultés du passage, du chemin, n'embrouillent pas ton but final, vers quoi tu devais aller. N'oublie pas l'idée première. Alors ne pas tomber, c'est sans arrêt se rappeler d'où tu viens et vers quoi tu vas. Da me'ain ba'ata, ou le'an ata ole. Si tu oublies ça, tu vas tomber dans la faute. Ken du Vaudor, qu'on a traduit Igul Egel. Egel, la faute du cercle, de tourner en rond. Ken Kreta Egel, traduction littérale, la fête du circulaire. La faute du circulaire. Kreta Igul. Tu tournes en rond. au lieu d'avoir une direction, quelle est donc la correction de Chet Ha'Egel? Yosher. Yosher, c'est Yachar. C'est pour ça que nous nous appelons Yachar El Israël. Nous sommes la correction de cette maladie, de tourner en rond. Ken, il y avait une autre question? Ken. Tout à fait. Aujourd'hui, avec notre retour en Eretz Israël, nous avons plus de connexion avec le degré qui s'appelle Ken, la Kol, le Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que la Torah d'Eretz Israël, le fait qu'on soit ici comme une nation, va nous coller. La terre fait un travail sur les gens qui habitent ici pour retrouver de plus en plus, chaque jour qui passe, l'unité organique de tout notre degré, c'est-à-dire le sens même de notre histoire. Tout à fait. Mais vadaï, aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de Torah qu'aujourd'hui depuis la création du monde. En Eretz Israël. Il faut le comprendre, ça. Ken, tu avais une question? Ok. Alors, dans notre vie, c'est la même chose. J'explique. Si tu as un but dans ta vie, un but ultime que tu dois atteindre, mais que tu te perds un petit peu dans tous les problèmes du jour le jour, eh bien, tu as perdu en fait ton Moshe Rabbeinu. Tu as perdu ton but. Tu es venu au Machon Meir pour construire un avenir, pour que tu aies une base solide quand tu te marieras, Be'ezrat Hashem, de Torah, de vie juive, de vie au niveau de l'Assemblée d'Israël, sur sa terre, des nouvelles idées que tu n'avais peut-être pas en France. Au moment où tu es venu ici, il peut y avoir des problèmes ici. Tu te lèves le matin, tu es fatigué, tu es un petit peu faible, tu ne t'accordes pas avec tel rav, avec tel copain, la nourriture ne te plaît pas. Ce sont des petits détails, mais qui peuvent te gâcher ton but final. Et si tu ne fais pas attention en te disant, attention, je suis venu ici pour ce but-là, je ne vais pas commencer à tomber dans chaque petit détail qui va m'embêter, eh bien tu réussiras. Mais si tu tombes et tu deviens râleur sur chaque petit degré qui t'embête, ben tu vas oublier le but pour lequel tu es venu. Donc tu vas utiliser toute ta vie à gérer des problèmes du jour le jour. C'est la même chose. C'est la même chose. Quand tu n'as pas de direction une, tu t'exploses en fait en mille possibilités. Et quand tu as mille possibilités, qui s'installe immédiatement? Le doute. Lui a raison, et lui aussi il a raison, et l'autre il a raison, et toi aussi tu as raison, et moi j'ai raison, et tout le monde a raison. Tu n'as plus de direction. Donc tu vois en fait que des ensembles de détails. Tu n'as plus de sens unitaire des choses. Tu sais, par exemple, il y a un exercice. Si je vous fais rentrer dans cette classe, et je vous pose la question, je te pose la question, qu'est-ce que tu vois ici? Je te pose la question. Ce n'est pas une question rhétorique. Réponds-moi. Alors, tu es en train de toucher, en fait, le premier sens. Mais tu aurais pu me dire, je vois des chaises. Je vois un carrelage. Je vois des lampes. Je vois un micro. À ton avis, qui a plus raison? Celui qui a dit « je vois un chiour qui est en train de donner dans cette classe » ou qui commence à me dire tous les détails qu'il y a dans cette classe? Celui qui voit le chiour, on est d'accord. L'autre, il est ridicule. On ne lui a pas demandé de venir me décrire la classe. Mais c'est la même chose. Quand je vais dans une conférence, tu rentres chez toi de la conférence et ta mère ou ton père ou ton frère te dit « alors comment c'était ?» Tu lui dis « la chemise du rave était magnifique ». Il va te dire, mais c'est pour ça que tu vas au chiour. Tu comprends le problème? C'est la même chose dans notre vie. Si on n'arrive pas à comprendre le sens qui englobe le tout, quelle est l'idée principale de la chose, eh bien tu peux te paumer dans plein de détails. Tu ne comprends plus. Tu as déjà eu affaire à des gens qui ne savent pas raconter un film. Qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à te raconter tout le film du début à la fin, dans tous les détails. Alors au début, ça commence comme ça. Ils commencent à te raconter qu'on voit une fenêtre ouverte avec un truc qui pend. Et 5 minutes après, il y a un type qui vient en moto et qui casse le truc. Tu ne lui as pas demandé ça. Tu lui demandes quel est le sens du film. Dis-moi en une phrase. C'est l'histoire d'espionnage entre deux pays. Mais je ne t'ai pas demandé de me raconter le film. Et c'est la même chose dans la vie. Est-ce que ces exemples t'aident? Tu comprends le problème? C'est la même chose. Il y a des gens qui ne savent pas décrire leur vie. Ils vont décrire les détails de leur vie. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Imagine-toi que je te pose cette question. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Et tu me dis, ben, le matin je me lève vers 6h, je vais à la tfila. Je ne t'ai pas demandé de me donner ton sédérium. Je te demande, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Réponds-moi en un mot, en une phrase qui englobe le tout. La même chose dans notre vision des choses. Si tu ne sais pas voir les choses dans l'unité, tu vas commencer à me raconter des détails, et c'est ça la faute du vaudor. Aselanu Elohim, asher yelchu lefanem. Tout au pluriel. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, Echad. Quel? Yafé, tu as raison. Et ce n'est pas le cas. Le vaudor n'était pas un. Le vaudor avait plusieurs faces, et c'est pour ça que la Torah, dans le premier sens, ne te montre pas ça. Mais en fait, il y a plein de degrés dans le vaudor. Il y avait Hegel, il y avait Masecha, il y avait tout une forme à quoi il ressemblait, il prenait certaines formes. Il était une multitude de facettes, en fait. Multiface. Tu as raison. Ton raisonnement est très, très, très vrai. C'est bien que tu aies compris ce secret-là. Effectivement, ça ne peut pas être quelque chose d'un. Parce qu'ils ont demandé des dieux. Et à part Akadosh Baruch Hu, il n'y a aucun dieu qui est unitaire à part lui. Tout le reste, c'est de la Avodazara. Qu'est-ce que c'est Avodazara? Traduction littérale du mot Avodazara. Non. Vous avez étudié les halakhot de Shabbat? Les halakhot de Shabbat, Zoré. Zoré, qu'est-ce que c'est Zoré? Qui éparpille, qui sème, qui jette. Avodazara, c'est un culte éparpillé. C'est pour ça que ça s'appelle étranger. Parce que c'est étrange à l'unité. C'est étrange à quoi? Avodazara, étranger à quoi? Eh bien, à l'unité divine. Et pourquoi? Parce que le mot Zoré veut dire éparpillé, parsemé, jeté en l'air. Comme si tu jetais des milliards de graines, et va les retrouver. Tu ne peux plus. Eh bien, c'est la même chose. Quand tu as perdu l'unité d'Hachem dans ta vie, tu tombes automatiquement dans un monde de zoré, c'est-à-dire d'éparpillement. Et toute ta vie devient en fait une panique totale, un ensemble de petits détails que tu vas essayer de voir, de rassembler, mais tu ne comprends plus rien. Et quelqu'un qui est dans ce degré-là souffre. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas du tout de quoi est faite sa vie. Il se voit se lever le matin, il fait des choses, mais il n'arrive pas à voir le lien. Il n'y a aucun lien. Et il est tout le temps dans la souffrance. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Où on va demain? Il est toujours, il a besoin de se rassurer parce qu'il n'a rien. Il n'a pas un cheminement. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Dans quel resto on va? Il est obligé de se donner des petits buts intermédiaires parce qu'il est paumé. Donc il lui reste que des petits buts comme ça. On se fait un kiff demain matin, on va là-bas. On se fait un kiff demain après-midi, ça le rassure. Et ça veut dire qu'il est en train de tomber dans une déprime. Et pour ne pas tomber dans cette déprime, il remplit vite avec des petites choses à faire. Et il a l'impression qu'il a rempli sa journée. Mais il n'a aucun but. Ok. Tout à fait. Tout à fait. Si tu quittes le degré, j'appellerai pas ça le spirituel parce que Dieu n'est pas spirituel, mais si tu quittes le divin, l'unité divine, automatiquement tu tombes dans le monde, et le monde dans lequel on est, tu as raison, c'est les détails. Les détails. Ok? Pratim. Pirut. Pirut et prat, c'est la même chose. Ça veut dire détailler les choses. Mettre en détail. Maintenant, quel est le secret? Je suis malgré tout dans un monde de détails. Alors qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, dans le monde de détails dans lequel je suis obligé de retrouver l'unité. Vous avez compris? C'est ça notre travail sur Terre. C'est de retrouver l'unité dans ce monde de détails. Voilà le travail. Et si tu ne fais pas ce travail, et vous le faites maintenant en étudiant la Torah, vous retrouvez le monde de l'unité dans un monde éparpillé. Et c'est pour ça que vous étudiez la Torah. C'est presque, je dirais, la chose la plus importante de votre étude. C'est de ne pas tomber dans la pluralité de cette vie en oubliant le but même. Ben, si vous ne savez pas que vous faites ça, il y a un problème. Okay. Il y avait une autre question ? Okay. Tout à fait. C'est pour ça que je n'ai pas traduit le mot Avodah Zarah comme un culte étranger à proprement dit, mais à un problème qui peut nous arriver tous les jours. C'est-à-dire un problème de tourner en rond, un problème d'éparpillement. Okay? C'est vrai que c'est une recherche de combler, mais quand tu combles quelque chose par autre chose que tu ne voulais pas, ce qu'on vous a dit ici en fait est venu du Kuzari. C'est-à-dire Rabbi Yehuda Halevi, lui, minimise la faute du Vaudor. D'accord ? Mais en réalité, il faut comprendre pourquoi. Parce que le but était de garder un lien. Mais en fait, tu ne veux pas le Dieu immense de l'unité, tu préfères un petit Dieu à ta portée. Donc tu rabaisses Dieu et tu lui dis, écoute, tu es trop grand pour moi, est-ce que tu peux un petit peu baisser le niveau, devenir quelque chose que je connais, un petit visage de taureau, quelque chose que je connais dans ma vie, un veau. Et il faut comprendre aussi pourquoi ce veau et pas autre chose. Ça aussi c'est un autre cours à part entière, mais quelque chose qui me rassure. Mais un Dieu qui est immense, qui est infini, qui rentre dans ma vie, ça j'ai du mal. Okay. Tout à fait, tout à fait. Ça veut dire que tu peux faire des choses dans ta vie en croyant que tu fais quelque chose d'extraordinaire, okay, mais tu es à côté de la plaque, tu es hors sujet. Tout à fait, tout à fait. Les gens qui veulent s'autoriser, tu connais pas les gens qui s'autorisent plein de averot avec des preuves à l'appui? C'est comme ça que le sens de l'homme y marche. Et ça commence d'abord par une envie qui vient du corps. Alors tu fais la bêtise. Après, ton cœur te dit, écoute, bon, tu as fait la bêtise, mais quand même, je vais te trouver une halakha qui va te rassurer. Et donc tu vas chercher une halakha qui va te dire, tu sais, la faute que tu as faite n'est pas tellement une faute. L'homme est assez intelligent pour se trouver des combines, pour se calmer, pour s'auto-pardonner. Tu comprends? C'est ça le système. Alors, on n'a même pas commencé encore, on a juste expliqué en fait le texte. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Maï dechti vayar am ki boshesh Moshe. Alors, la Gemara, dans le traité de Shabbat, à la page 89, pose la question par la bouche de Rabbi Yoshua ben Levi. Qu'est-ce que ça veut dire Rabbi Yoshua ben Levi? Ce qui est écrit, Vayar Ha'am ki Boshesh Moshe. Le peuple a vu que Moshe, il était Boshesh. Boshesh. Qu'est-ce que ça veut dire Boshesh en hébreu? Ah, ça c'est déjà, tu donnes déjà une explication. Alors il y a fait. Il y a deux degrés. Ou c'est Boucha, Bosh. Bosh ça veut dire avoir honte. Ou boshesh lehit boshesh, c'est retardé, tardé. Mais là, tu as déjà donné l'explication de la Gemara, qui dit, il y a ici un jeu de mots. La Torah nous parle en code, et elle nous a donné un jeu de mots. Au lieu de nous dire que 6 heures sont passées, donc elle aurait dû écrire ba shesh, 6 heures sont venues, elle nous a dit boshesh. Il a été retardé. Altikre boshej. Donc la Gemara ici répond tout de suite. Ne lis pas boshej dans le premier sens. Et là, bas ou shesh. Ils sont arrivés 6. Ils sont venus 6. J'allais dire plus profondément. Vous savez qu'en hébreu, quand on parle du soleil, on parle de la zricha ou de la bi'a. C'est-à-dire qui bat Hashemesh, ça veut dire le soleil s'est couché. Vezarach Hashemesh, le soleil s'est levé. Donc l'inverse de Vezarach Hashemesh, c'est bat Hashemesh. Ici, bat Shesh ou bat ou Shesh, ça veut dire que les 6 sont couchés. Qui c'est ces six-là? C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu s'appelle le degré du 6. Pourquoi il s'appelle le secret du 6? Bien fait. La lettre 6, c'est la lettre Vav. Je vous ai dit tout à l'heure, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de vous dire que Moshe Rabbeinu représente la colle, le lien, pour voir une unité entre les choses. Or, la lettre qui est en valeur numérique 6, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Vav, c'est Moshe Rabbeinu, c'est le Shesh, c'est le Vav. Donc si la Torah nous dit qui bat Shesh, ça veut dire Moshe, c'est comme si c'était un soleil qui venait de se coucher. Si le soleil de Moshe s'est couché, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Que les hommes n'arrivent plus à faire le lien dans leur vie. C'est comme si Moshe était mort. Effectivement, le Midrash nous raconte que le Satan leur a montré Moshe mort. Donc Moshe bat. Donc bas shesh, bas ou shesh. Besha she'ala Moshe la marom. Et la Gemara va développer. Lorsque Moshe est monté en haut, Amar lahem le Israël, il aura dit au peuple d'Israël, les sof arba'im yom bitrilat shesh aniba. À la fin de 40 jours, au début des 6 heures, j'arrive. Les sof mem yom, à la fin des 40 jours, bas Satan. Au lieu de voir Moshe, il voit le Satan. Regardez bien. À quel moment vient le Satan? Juste au moment où Moshe doit venir. Vous avez compris le lien. Ça veut dire au moment où tu vas voir une grande lumière dans ta vie, où Moshe revient, qui va revenir juste avant lui pour t'embrouiller? La force inverse. Autrement dit, par exemple, tu as étudié très profondément. Tu devais arriver, on va dire, le jour de Tisha B'Av à recevoir une prophétie. Tu as étudié, la semaine prochaine Tisha B'Av, tu reçois l'ultime degré, tu es sur le point de recevoir une vision divine. Qui va venir un instant avant cette vision divine? Le Satan. Et qu'est-ce qu'il va te montrer? Il va te faire tomber, il va te dire, tout ce que tu as fait c'est du bidon, jamais tu verras rien, mais tu t'es pris pour qui? Pour un prophète, mais tu vois rien. Regarde, tu n'arrives même pas à tenir un petit truc, il va te faire tomber dans une mauvaise pensée, dans un petit truc, machin. Alors que tu viens de rater, si tu avais attendu une seconde, tu aurais vu la pandémie. Adam Arishon, il a fauté quand? Juste à l'entrée de Shabbat. Ça veut dire dans quelques minutes, il y avait la grande lumière de Shabbat. C'était fini, c'était la Géoula, c'était le Mashiach. C'est là-bas où le serpent, il attaque. Un instant avant la grande lumière. Ça veut dire, parfois, vous attendez quelqu'un de très grand. Vous avez un rendez-vous avec quelqu'un d'immense, un grand rave. Et vous attendez 5 heures. Il y a une queue énorme. Au bout de 5 heures, tu te démoralises. Tu te dis, ah, j'en ai marre, j'ai jamais bien sorti. Tu t'en vas. Dès que tu es sorti de la porte est sous, il est où? C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, il y a un problème, le Yetzer Hara, il veut te casser au dernier moment de ce degré que tu es en train d'atteindre. Ça veut dire, Dafka, au moment où vous êtes le plus haut, vous risquez Dafka de flotter, de tomber. Donc, quand vous avez fauté, en fait, dans votre vie, c'est que vous étiez dans un moment très élevé de votre vie. Vous comprenez le paradoxe? Et c'est parce que vous êtes élevé que vous avez fauté. On veut vous casser. Pour ne pas vous laisser grandir. Et faites le résultat dans votre vie. Faites le film en arrière. Vous allez voir qu'à chaque fois que vous êtes tombé dans une erreur, vous étiez sur le point, vous avez fait un grand travail avant, vous avez atteint un grand niveau, et après on vous démoralise, on vous casse tout le système comme si tu dois tout recommencer à zéro. Comme un château de cartes qui s'effondre. Et donc, moralité, tu es dans une dépression, dans une déprime. Parce que toi-même, tu te dis, ben, jusqu'à ce que j'ai fait tout cet effort, ça fait 6 ans que je suis propre dans ma tête, je fais un travail et tout, je suis tombé en un instant dans cette condition. Et ça fait partie du Yetzer Hara. D'abord, il te casse et après, il te dit, regarde comme tu es pourri. Et maintenant, tu crois que tu auras la force de recommencer tout ce que tu as fait? J'arrive de la vie. Donc, tu commences à tomber dans une dépression tout seul. Une fois que tu es dans une dépression, le Yetzer Hara, il n'a même plus besoin d'être ici parce que toi-même, tu es ton propre ennemi. Il n'y a pas plus grave que la dépression chez l'homme. Il devient sa propre maladie. Et donc le Satan, il lui dit, Shalom, j'ai déjà une force qui est beaucoup plus forte que moi qui s'occupe de toi maintenant. Ça s'appelle la déprime et la dépression. Moi, je m'en vais, je n'ai plus à m'occuper de toi. Tu es déjà foutu. À tel point que la Chassidoute dit que la dépression, c'est la 50e porte de l'impureté. En Égypte, on est arrivé à 49 degrés d'impureté. La 50e porte, c'est la dépression. C'est la maladie du siècle. Les hommes sont beaucoup dépressifs aujourd'hui. Les gens sont dépressifs. Encore une fois, pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus l'union. Il n'y a plus le moché. Quand tu n'as pas de lien dans ta vie, que tu vois les choses éparpillées, tu n'arrives plus à voir le fil conducteur. Donc, bas Satan. Qu'est-ce que c'est Satan ? Stia. Stia veut dire déviement, okay ? Déviation. Okay ? Tu as dévié, une déviation de ta route. Rashi, ou Yetzer Hara. Qu'est-ce qu'il dit Rashi ? C'est la formation de mal en toi-même. Toi-même, tu as commencé à faire marcher ton usine de mal. Tu as fait remonter les machines. Amarti est à Adam et ça te fait rater ton but. L'arti, c'est rater une cible. Donc tu ne sais plus où tirer. Tu tires n'importe où. Et tu gaspilles tes cartouches. On ne te donne pas une infinité de balles quand tu es à l'armée. Donc tu dois garder tes balles pour des choses importantes. Tu ne peux pas tirer en l'air, ça. Après, quand tu auras besoin, tu n'auras plus de balles. Donc les gens perdent leurs cartouches avec des bêtises. Voua olé ou mastine. Et qu'est-ce qu'il fait ce Satan ? Il monte et il embrouille complètement la personne. Il lui fait tourner la tête. Il le fait oublier en fait le but qu'il est en train de travailler. Tu étais en train de construire un château. Il est venu à la dernière seconde. Moshe, tu devais rencontrer Moshe Rabbeinu. À la dernière seconde, il vient et il te dit, viens, je vais te montrer quelque chose. Tu vas voir le truc, le machin. Tu as oublié complètement Moshe. Il t'a fait descendre dans un tourbillon et tu es complètement foutu dans un système qui n'a aucun rapport avec la vérité. Regardez ce que dit la Gemara. Il a mélangé le monde. Ça veut dire irve vetaolam. Quand est-ce que tu peux mélanger quelque chose? Quand il y a plein de détails. Quand tu mélanges, il devient fou le type. C'est comme un jour on a refusé à un type et il y avait un bac, un examen. Et comme dans le bac, on ne met pas les noms, vous savez. Tout est masqué. Et il a dit, il y a eu une sonnerie. À la sonnerie, on doit s'arrêter d'écrire. Donc le type, il a continué à écrire. 2 secondes, 3 secondes, il finissait sa phrase. Quand il est amené le truc chez le prof, il a dit, je ne reçois pas ta copie. Pourquoi ? Il dit, parce que tu as écrit encore 2 secondes. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris toute la pile des gens qui ont rendu. Il a mis au milieu. Ok ? C'est une cul, ça ? Alors voilà, c'est la même chose. Ça veut dire, le mec, il ne sait plus où elle est. Voilà. Et bien ça, quand est-ce que tu peux faire ça ? Quand tu n'as aucun sens, tu n'as plus de nom, tu n'as pas de direction, tu ne sais rien, donc c'est la même chose. Donc on te mélange les pédales, voilà ce que fait le Satan. Il t'embrouille total, quel tu ne sais plus qui est contre qui. Amar Lahem, comment ils ont embrouillé ? La Gemara raconte. Moshe Rabbechem Heichanu. On est en train de parler des 3 semaines, n'oubliez pas, du 17 Tammuz au 9 Av. C'est ça. Voilà la cause. On a touché en fait le point par où tout a commencé. Ne tombez pas dans le piège que tout a commencé dans la destruction elle-même. La destruction elle-même, c'est un résultat. Mais qui a amené à ce résultat ? Voilà, là. Alors le Satan, qu'est-ce qu'il leur dit ? Moshe Rabbechem Heichanu. Votre rave, Moshe, il est où exactement ? Et ça, c'est la question du Satan. En réalité, il n'y a pas une force extérieure qui pose cette question. Qui c'est qui pose cette question ? Chacun. Vous avez compris ? C'est à l'intérieur de la personne. La personne, elle se dit, mais il est où ce rave ? C'est fini, quoi. J'ai plus aucun contact avec lui. Quel rapport j'ai avec ce rave ? C'est à l'intérieur, déjà. Il est où ce rave ? Il n'est plus rien pour moi, je ne le vois plus. Je n'ai même plus aucun kesher ni rien. Amroulo. Alors, la personne répond à sa propre voix intérieure. Allah l'amarom, il est monté. N'oublie pas qu'il est monté, mon cher. Il est monté pour aller récupérer des tables. Amar laem, alors la force inverse dans le même esprit, elle lui dit, mais Baouchesh, c'est un embrouilleur ton Ravi, puisqu'il t'a dit que 6 heures après les 40 jours, il arrive. Regarde, 40 jours sont passés, 6 heures sont là, il est où? Tu vois, tu peux compter sur personne, même pas les rabbins. Tiens, toi tu faisais confiance au rabbanim et tout, regarde, tu es déçu, hein? Dis la vérité, tu es déçu. Et le mec, il commence à travailler à l'intérieur de lui. Ça lui pourrit son système. Velo ishgicho alav. Alors, au premier degré, qu'est-ce que tu fais avec ce Yetzerara? Tu lui dis non, je le repousse, je ne veux pas écouter. Arrête, tu es en train de m'embrouiller, j'ai pas envie. Mon rave, c'est mon rave, je l'aime, arrête de m'embrouiller. Alors il leur dit, mais non, t'as pas compris, il est mort. Mette. C'est le deuxième attaque. Okay? Il dit, mais arrête, je ne veux pas rentrer dans ce système. Mon rave n'est pas mort, il est vivant, il est bien vivant, c'est mon cher Abenou, je ne l'oublie pas. Loïch Gichwala. Et Alaem Dmut Mitato. Il commence à rentrer maintenant le film, l'imaginaire. Okay? Le Dimion, il commence à marcher. Il lui montre son lit de mort. C'est-à-dire quand la personne elle commence déjà avec son système imaginaire, c'est fini. Il y a les images qui rentrent. Imaginaire veut dire image. Bien, tu commences à rentrer des images et tu te dis, mais peut-être qu'il est mort. Oh là là, c'est vrai, il est mort. Et il lui montre son lit de mort. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on lui montre son lit de mort à Moshe Rabbeinu? Qui est mort en fait? Le lien. Sur qui tu comptes? Tu n'as plus sur qui compter. Ton pot de colle, Moshe Rabbeinu, qui fait le lien entre tous les degrés de toi-même, n'est plus là. Dans notre corps, qui joue ce rôle? La Neshama. La Neshama. La Neshama, c'est le Moshe Rabbeinu de notre corps. Sans Neshama, est-ce qu'il y a un lien entre mon petit doigt et mon oreille? Non. Comment est-ce que je peux faire ce que je suis en train de faire maintenant? Je me gratte l'oreille. Comment je peux faire ça? Me gratter l'oreille. Mais c'est la Neshama qui fait le lien entre le petit doigt et l'oreille, qui me fait le lien entre les deux. Sinon, je ne peux même pas me gratter l'oreille. Quel rapport entre mon doigt et mon oreille? Il n'y a qu'un élément qui est et dans le doigt et dans l'oreille, qui peut me faire le lien entre le doigt et l'oreille. On est d'accord? Pourquoi vous ne l'avez pas compris? C'est simple. Pas du tout. Le corps, c'est un résultat. Quelqu'un qui dort, qu'est-ce qui est parti de lui? Qu'est-ce qui est parti de lui? Il reste dans le cours. Moshe, la Neshama. On est d'accord? Maintenant, quelqu'un qui dort, je prends une cuillère avec un pot de miel. Il dort. Je lui ouvre la bouche et je lui mets le miel. Il sait que c'est du miel? Non, rien du tout. S'il est en train de rêver maintenant, il est en train de manger des herbes amères, eh bien, le miel qui est en train de rentrer dans sa bouche, ça va avoir le goût de la mer et il va tout cracher. Comment est-ce possible? Tu me dis c'est des membres. Bon là c'est un corps. Et si tu lui parles à son oreille, tu es en train de dormir, tu lui dis tu sais David, aujourd'hui t'as pas été très sympa avec moi, il va t'entendre? Hein? Il va ronfler et rien du tout, il s'en fiche complètement, il n'entend rien du tout. Maintenant tu lui dis bon tu m'en contentes pas, alors je vais t'ouvrir les yeux, il dort. Hein? Tu lui fais comme ça. Et tu lui dis, tu me vois bien, okay? Regarde-moi bien dans les yeux, hein? Parce que ce que j'ai à te dire maintenant, tu le berges, il est parti. Il t'a vu? Rien. Alors, il est où? Il est là, il est dans le lit, le corps c'est le même. Dans quelques heures, il va se réveiller avec le même corps, on est d'accord? Alors pourquoi il ne voit pas? Pourquoi il n'entend pas? Pourquoi il ne goûte pas? Pourquoi il ne peut rien faire? Parce que Moshe est parti. Quand Moshe est parti, tu es mort. Ça, c'est le degré. C'est pour ça que le sommeil, c'est comme la mort. Avant de mourir, qu'est-ce que tu fais? Shema Israël. Donc on fait Kriyat Shema à la Mita. Dans les deux formes d'écriture, à la Mita et à la Mita, ça veut dire la mort et le lit. L'un avec un tête, le lit, et l'autre avec un tav, la mort. Vous avez compris? Quel? Ça veut dire que c'est un degré qui est en train de s'éloigner. Ce que tu dis est très 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 important. Nous disent les Chachamim que 40 jours avant que la personne meure, du Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, dans la Kabbalah, eh bien sa Neshama, elle fait tout le tour et elle dit au revoir en fait à tous les membres. et elle s'en va. La Neshama, elle sait, elle. La personne, elle ressent, c'est pas forcé, ça dépend quel kécher elle a avec son âme. Mais l'âme, elle va dire au revoir à tout le monde. Elle va chez les yeux, elle leur dit, écoutez, je suis en train de vous quitter, je vous dis au revoir, elle va aux oreilles. Et en fait, ça s'éloigne tout doucement, tout doucement, tout doucement. Donc Moshe, en fait, la 40e journée, c'était le maximum, il ne pouvait plus tenir. En fait. S'ils ne revenaient pas à 40, ils étaient morts d'office. Donc qu'est-ce qu'il a fait le Satan? Il a créé un retard. C'est-à-dire, il a créé la mort. Tu as raté en fait la lumière qui revenait d'un instant. Tu n'as pas eu l'espoir. Quand il fait nuit, vous êtes en garde. Vous avez fait des gardes à l'armée. Vous êtes de nuit, il fait froid. C'est l'hiver. Au moment où le soleil va se lever, il fait encore plus froid que pendant toute la nuit à minuit. Juste au moment où le soleil va se lever, tu commences à te geler, mais grave. Pourquoi ? Le soleil est en train de se lever, dans 10 minutes, tu vois déjà la lumière. Pourquoi il fait aussi froid ? Parce que tu es au maximum de la nuit. C'est la même chose. Ça veut dire au maximum de l'exil, juste au moment où la lumière de la Géoula va se réveiller, ça sera le plus noir. Ça sera le plus difficile. Il y aura le plus de doutes. C'est maintenant. Quel ? C'est pour ça que le texte dit qu'il est Moshe Aïch. Voilà le Moshe, on le voit, il est mort. Mais Vaher Arav, on va terminer avec ça, le Rav Kook explique. Hayachas, dans Enaya, Shabbat, Bet. Hayachas shel kdushat Moshe le kasher et Israël bakdusha. Ce qu'on vient de dire pendant une heure, voilà les mots chez le Rav Kook. Hayachas shel Moshe, quel est le rôle de Moshe par rapport à Israël? Le kasher et Israël, c'est lui qui attache tout Israël ensemble. C'est-à-dire c'est le lien, c'est la Neshama, c'est lui qui fait le lien entre tous les membres. Bikdusha, dans la sainteté. Le achinam, pour les préparer. Lihiyot, le am, le Hashem. Pour être un peuple pour Akadosh Baruch Hu, son peuple. Ou les havdilam mikol achirat marshava ra'ash el avodazara. Et pour les éloigner de toute mauvaise pensée de culte étranger, de avodazara, de quelque chose d'éparpillé. Ça veut dire de le ramener vers l'unité et de les sortir de l'éparpillement. C'est ça la force de Moshe. C'est ça la force d'un bon rav, d'un bon maître. Qu'est-ce qu'il fait le bon maître? Il rassemble le sujet pour que l'élève sache de quoi on parle. Il y a des élèves en cours, dans des écoles, ils ne savent même pas où sont les sujets, tellement il y en a. Ils sont dans un truc, à droite, à gauche. Des fois, je prends des petits élèves dans une école de Torah. Je leur dis, dans quel Gemara? Ils ne savent pas. Ils ne savent que la page dans laquelle ils sont les pauvres. Ils savent même pas la Maseret. De quoi elle parle cette Gemara? L'essentiel, c'est que dans la page 9, je ne sais pas de quelle Gemara, hein, on parle d'une machloket entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Mais tu ne peux pas retenir cette Gemara. Jamais tu vas le retenir maintenant, mais jamais tu la retiendras. Pourquoi? Parce que tu retiens le détail, mais tu as perdu le film. Si tu ne sais pas que telle Maseret parle, elle traite de tel sujet, comment tu veux rentrer dans un petit détail de ce sujet? Tu ne peux pas savoir. Si je te donne une grande feuille de 1m50 de mécanique, vous savez qu'il y a des feuilles comme ça de mécanique, des plans, et je te montre un grand boulon ici en coupe, machin, avec des mesures, des trucs, quand je te dis, voilà, maintenant je veux que cette poulie tire tel câble, machin. Tu es là comme un fou, le pauvre, en train de regarder de tous les côtés de la feuille. Mais il te manque une seule chose, tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Alors, tu lèves le doigt, tu dis, mais c'est quoi tout ça? Ah, tout ça, c'est juste le petit truc de la remorque d'une voiture. Ah, d'accord. Bah, dites-le. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, avec des bouts de ferraille? Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Mais c'est la même chose dans tous les domaines de la vie. Vous rentrez dans des sujets, et vous ne savez même pas quel est le sujet principal. Alors vous êtes dans les discussions, comme si vous étiez devenu des talmidei chachamim. Lui, il a dit comme ça, lui, il a dit comme ça. En plus, tu fais avec le pouce, ça fait bien. Mais tu ne sais même pas de quoi il traite. Quel est le sujet principal? De quel corps il s'agit? Tu n'as pas étudié comme ça. C'est pas comme ça qu'on étudie. Bien. Tu comprends? Donc Moshe Rabbeinu, c'est ce qu'il vient nous faire. C'est comme un type, j'ai vu un type il y a quelques mois dans, en bas, à la bibliothèque, assis comme ça avec une tête de Tisha B'Av, alors que c'était pourri. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Mishenichnas Adar Marbin Besimcha. Il m'a dit, comment tu arrives? Qu'est-ce que tu arrives? Il me dit, ça fait 6 mois que je suis là. 6 mois que tu es là? Et qu'est-ce que tu fais? Et tu tournes où? Hop, je lis 2-3 heures, je ferme, lendemain je vais de l'autre côté, hop. Comment tu peux vivre? Et comment tu as tenu 6 mois? Il m'a dit, j'en peux plus. Je comprends que j'en peux plus. Tu n'as pas de direction, ta Torah elle est complètement vide, elle a pas de sens. C'est n'importe quoi. Il faut que tu aies un céder, il faut que dans ta tête tu saches où tu veux arriver à la fin de l'année, qu'est-ce que tu veux finir. Alors on a travaillé ensemble, on a fait un céder, il m'a dit, j'ai même pas commencé mais je me sens bien. Tu es mefoukas, tu es déjà dans un degré. C'est, toute notre vie elle est comme ça, c'est pas la yeshiva, ça c'est des exemples. Toute votre vie elle peut être comme ça. Faites attention. Ça c'est la faute du Bodo. Aya kashur imara ayon ve'atziyur. Vous avez compris? Moshe Rabbeinu, le peuple, il fallait jamais oublier que Moshe Rabbeinu était la neshama du peuple, qu'il était Me'ugad. Qu'est-ce que ça veut dire Me'ugad? Eged? Qu'est-ce que c'est Eged? C'est pas la compagnie des bus, hein? C'est un lien, Igoud, lié complètement, Bechefzo ou Bemachashavto, dans ce qu'il voulait et dans son âme. Tant que tu n'as pas compris le sens même de Moshe Rabbeinu qui est en toi, tu ne peux pas comprendre la Torah. Tu ne peux pas comprendre ce que tu fais. Alors regardez, je termine avec ça, combien de personnes lisent cette histoire de Moshe Rabbeinu. Et c'est loin, pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, c'est qui? C'est l'autre, Moïse. Ça n'a aucun rapport avec moi, avec mon système intérieur, avec mon... Alors qu'est-ce que je risque? Rien du tout. Qui c'est qui a fait la faute du veau d'or? Eux. C'est pas moi. Donc je rentre à la maison, moi, je mange toujours ma tafina, le Shabbat. J'en ai rien à faire de ce qui s'est passé là-bas. Eux, ils se sont trompés. Eux. Et quand tu commences à comprendre que c'est toi, que le problème c'est toi, que tout ce veau d'or c'est toi qui peux le faire en petit, que tu n'arrêtes pas de fabriquer des veaux, sans être bouché, eh bien, il y a un problème. Et il faut régler ce problème. C'est comme ça qu'il faut étudier la Torah, pas comme une histoire qui s'est passée avec d'autres personnages, mais c'est juste une histoire qui parle de toi, Kadosh Baruch Hu te parle en parabole. Je donne des exemples, mais il s'agit de chacun de nous, et c'est à nous de faire attention de ne pas perdre notre Moshe Rabbeinu, et au contraire, de le récupérer, et de comprendre l'unité de notre vie. Alors, avant.